à la cime de la basilique, entre chaque fenêtre, il y a des anges tous tournés vers l'autel, vers le lieu de la nativité. Il y avait eu des restaurations où on avait recrépi une bonne partie des mosaïques. On ne savait pas forcément restaurer à cette époque-là. Donc en fait, à peu près 10% des mosaïques que l'on voit aujourd'hui avaient été dissimulées et enduites par un crépi. Et donc, avec des machine un petit peu sophistiquée, on a sondé le crépi, on a découvert qu'en dessous il y avait quelque chose, et c'est donc ce septième ange. Cet ange avait été recouvert car en fait il était acéphale, c'est-à-dire que le visage de l'ange avait disparu. Et donc on imagine que les restaurateurs de l'époque, dans la mesure où cet ange n'avait plus son visage et qu'il était difficile de le restaurer, eh bien ils ont préféré le recouvrir.
Cet ange est altéré et a également souffert du crépi. Comment vous en êtes-vous occupé ?
Les restaurateurs évitent de créer. C'est-à-dire que lorsque des parties ont disparu, elles ont disparu. Mais on ne peut pas laisser des anges sans visage. Il y a des petites reconstructions qu'il faut faire. Les pèlerins qui vont dans la basilique ne visitent pas un site archéologique. Donc en fait, il faut quand même que ce lieu témoigne que l'édifice, l'esthétique, soit au service de la prière des gens qui sont dedans. Donc en fait, en regardant les anges qui se trouvaient à côté, on a reconstitué le visage de cet ange, c'est-à-dire qu'on a mis dans la tête de l'ange de la peinture, mais vu du bas, on ne se rend pas compte que c'est une restauration en fait. Il ne manquait pas grand-chose, il manquait un bout de nez et la bouche et un œil peut-être. Donc en fait, c'était très très peu ce qui manquait. Tout le corps, les pieds, les ailes sont d'origine. Mais je veux dire, la tête de l'ange est grande comme une main d'homme. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui a demandé énormément de travail, à mon avis, pour concevoir la tête de l'ange qu'il manquait. Mais là, ceci dit, c'est une reconstruction et il y en a très très peu dans la basilique. On a préféré en général laisser les mosaïques d'origine pour éviter de les mutiler avec des reconstructions pas forcément pertinentes.
Cette restauration était espérée depuis des décennies, mais paradoxalement, selon vous, on a bien fait d'attendre.
La basilique de la Nativité est une basilique de Constantin au IVe siècle, restaurée par Justinien au VIe siècle. Et tous les murs jusqu'à la charpente, les ouvertures des fenêtres, etc., les colonnes, les chapiteaux, tout est au maximum du VIe siècle. S'il y avait eu des restaurations, des ajouts avant l'an 1000, à l'époque des croisades, après les croisades, pendant l'Empire ottoman, etc., nous n'aurions plus cette basilique du VIe siècle. En France, en Italie, en Europe, il n'y a pas de bâtiment du VIe siècle, des fondations jusqu'à la toiture. Aujourd'hui, avec les techniques modernes que l'on a au niveau de la restauration, eh bien, on va pouvoir faire chanter en quelque sorte les merveilles de la basilique. Et si on l'avait restaurée il y a 50 ans ou 100 ans, je me demande si on aurait conservé les mosaïques. Elles semblaient en mauvais état. Peut-être qu'on les aurait fait disparaître pour avoir une église propre et badigeonnée en blanc ou quelque chose de style 19e siècle mise sur les murs.
Mais même avec les techniques modernes, il a fallu faire attention à conserver l'aspect original.
Si l'église est du 6e siècle, il est évident que la toiture a été refaite plusieurs fois. Et donc vous avez à la fois des poutres en cèdre, assez anciennes. Vous avez également des parties en chêne. Donc l'église a été restaurée, me semble-t-il, au 13e siècle, au 16e siècle, un peu plus tard. Donc en fait, aujourd'hui, lorsqu'il y a des poutres qui sont altérées, et ça arrive parce que du fait qu'il a plu dans la basilique, il a fallu changer des poutres, on ne peut pas mettre une poutre moderne à la place d'une poutre ancienne. Donc en fait, si on enlevait une poutre en chêne du XVIe siècle, il fallait la remplacer par une poutre en chêne du XVIe siècle. Comme dit l'Évangile, on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres, parce que le bois aurait joué différemment et ça aurait été dramatique pour la charpente. Donc on a retrouvé dans des châteaux, dans des constructions en Italie ou ailleurs. Donc en fait, quand on voit la toiture, on la voit saine, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des modifications. Aucune de ces poutres n'a été sciée à la scie électrique. Toutes sont restées avec la forme du bois tel que l'on faisait autrefois. Le but au début, c'était de mettre la basilique hors eau, mais l'entreprise italienne Piacenti qui a fait les travaux a su tenir compte également du patrimoine.
Personnellement, quels ont été vos sentiments au fil de cette restauration et de ces découvertes, vous qui connaissez bien la basilique ?
C'est quelque chose de fort sympathique. D'une part, ça nous permet de travailler avec les orientaux et c'est toujours quelque chose de positif. On travaille avec eux au quotidien, mais le fait d'avoir un but commun pour cette basilique que nous aimons tous, eh bien, c'est quelque chose de positif. Le fait de découvrir des éléments nouveaux, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je me souviens souvent, je disais aux pèlerins, par exemple, que les tesselles des mosaïques fresques des anges n'étaient pas collées contre les murs, mais elles étaient légèrement biaisées, c'est-à-dire qu'elles étaient faites pour être vues du sol. Donc elles n'étaient pas parallèles au mur, mais légèrement inclinées. Je le savais, mais je ne l'avais jamais vérifié. Et donc, en fait, le fait de pouvoir, grâce à l'échafaudage, vérifier des choses comme ça, c'est assez émouvant de prendre conscience et de toucher avec votre main des choses liées à l'histoire de la basilique. Et là, on espère que rapidement, l'échafaudage va disparaître, de façon à ce que les foules qui viennent dans la basilique pourront rapidement redécouvrir ces mosaïques. Le travail des mosaïques de la nef est terminé, mais il manque encore un système d'illumination. L'illumination est fondamentale pour que l'on prenne conscience de la qualité des lieux. Donc il vaut mieux attendre un petit peu et puis terminer le travail d'illumination. Moi j'espère que les gens vont venir en masse voir cette merveille dès que ça sera visible.
Que reste-t-il à faire aujourd'hui? Quelles sont les prochaines étapes de la restauration?
Au niveau extérieur, les murs des nefs nord et sud ont été restaurés, mais les pèlerins ne voient pas les murs à droite et à gauche. La façade n'est pas encore faite, donc la façade serait également à revoir. Il y a les colonnes, enfin les fresques des colonnes qui devraient être faites, et puis sur le sol, vous avez des mosaïques du IVe siècle, de l'époque constantinienne, qui auraient besoin, elles aussi, d'être revues. Alors, le prochain défi, eh bien, ça va être la grotte de la Nativité elle-même. La grotte est toute petite, elle est sous l'autel des Grecs, mais pour l'instant, la grotte n'est pas encore en projet. Le projet, c'est vraiment la basilique. Les sanctuaires, en général, en Terre Sainte, sont polaires. Vous avez le lieu saint, le lieu de culte. La basilique, c'est le lieu de culte. Sous la basilique, il y a aussi le lieu saint, lequel, j'espère, ne sera pas oublié.
Concernant le financement, il vous manque des fonds, mais vous êtes confiant.
Tout le monde fait un appel de fonds, mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas été stoppés par manque de fonds. Lorsque vous faites une œuvre bonne, eh bien, les fonds arrivent. Il faut penser également que la basilique de la Nativité est un lieu important pour les chrétiens, mais c'est aussi un lieu qui est important pour l'autonomie palestinienne. Je pense que la basilique de la Nativité est le lieu touristique le plus important de l'autonomie palestinienne. Donc en fait, c'est pratiquement le monument national de Palestine. C'est quand même un lieu qui, d'une façon ou d'une autre, attire des mécènes.